Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir ou de vous retrouver pour le cours de cette année. Alors ce cours, comme vous le voyez dans le titre, va être consacré aux jonctions Josephson. Alors les jonctions Josephson, vous en avez probablement tous entendu parler. Ce sont des dispositifs, enfin un petit peu l'historique, qui sont apparus dans les années 60 et qui ont, en matière condensée, apporté des bouleversements importants dans pas mal de domaines, comme on va le voir, à la fois dans le domaine de la métrologie pour définir les unités électriques, dans le domaine des capteurs avec les SQUID, ça c'est des choses qu'on va voir tranquillement ensemble après, c'est à l'origine du dernier prix Nobel de physique, dont on parlera également, prix Nobel attribué à Clark, Devoré et Martinis, pour l'observation de ce qu'on a appelé l'effet tunnel macroscopique. Et puis plus récemment, l'effet Josephson est à la base de toutes les réalisations de qubits supraconducteurs pour le traitement quantique de l'information. Ces jonctions Josephson, donc elles sont apparues sur des plateformes supraconductrices. C'est comme ça que Josephson avait postulé son effet. Encore une fois, on va en parler dans un instant. Mais après, elles ont irrigué d'autres domaines, et en particulier le domaine des ondes de matière atomique. D'abord avec des plateformes à base d'hélium, hélium 3 ou hélium 4, dans un régime superfluide dans les deux cas. Et puis plus récemment, et c'est ça qui m'a vraiment motivé pour faire ce cours, les plateformes d'atomes froids, de gaz quantiques, des gaz quantiques bosoniques, des gaz quantiques fermioniques. Et donc ça faisait un certain temps que je me disais que ce serait bien de faire une série de cours sur les jonctions Josephson. Et puis le prix Nobel de cette année, septembre dernier, m'a poussé prendre ça comme sujet de cours. Donc, on va parler pendant toutes ces semaines de jonctions Josephson. Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire. L'histoire, elle commence en 1962, et là, il n'y a pas d'ambiguïté sur qui l'a trouvé. Parfois, les grandes découvertes, il y a plusieurs auteurs qui peuvent se prétendre auteurs de la découverte. Là, c'est bien clair, c'est Josephson, jeune étudiant en thèse à Cambridge. Son directeur de thèse était Brian Pippard. Et Josephson, donc, pendant sa thèse, comme tous les étudiants en thèse, devait suivre des cours. Et cette année-là, il y avait une série de cours qui étaient donnés par Anderson, P.W. Anderson, qui travaillait en principe aux États-Unis, au Bell Labs, mais qui était en séjour sabbatique à Cambridge, Angleterre. Et donc, il faisait des cours. Il faisait des cours sur les sujets qui sont écrits ici. Le problème à N corps quantique, la supraconductivité, la théorie BCS, Bardeen, Cooper, Schrieffer, qui venait d'être mise sur le marché, si je puis dire, et puis parlait aussi beaucoup de brisures spontanées de symétrie et de fonctionnement de macroscopique. Alors Josephson suivait les cours, Anderson a dit après que ce n'était pas un étudiant facile, il venait voir l'enseignant à la fin de chaque cours en disant « là c'est pas clair », mais non seulement il corrigeait l'enseignant, mais il est venu donc avec une idée qui a consisté à prendre au sérieux ce qu'Anderson enseignait, et avec donc cette idée qu'il a mise sur le papier, qui est que si vous prenez deux supraconducteurs, donc un à gauche que je vais appeler A, un à droite que je vais appeler B, et vous supposez que les paires de Cooper, donc les paires d'électrons qui sont à l'origine de la supraconductivité, que ces paires de Cooper peuvent passer de A vers B et de B vers A par effet tunnel, eh bien, en l'absence de tout potentiel et différence de potentiel électrique entre les deux supraconducteurs, le potentiel électrique de A est égal au potentiel électrique du supraconducteur B, eh bien, il peut exister un courant, et ce courant est fonction simplement de la phase relative, c'est-à-dire de la différence de phase phi A moins phi B. Voilà, donc c'est ça l'idée de Josephson. Et comme je dis, ça consistait essentiellement à prendre au pied de la lettre la théorie BCS que Anderson lui enseignait. Alors, la manière dont l'idée de Josephson est reçue a été très variée, disons. Anderson est presque immédiatement convaincu que Josephson a raison, et il va soutenir Josephson pour la rédaction de l'article que vous avez vu à la diapositive précédente. Anderson, quelques années après, a écrit la chose suivante, donc on peut le lire ensemble, je peux traduire. En 1962, nous avions déjà postulé, nous c'est la communauté, en particulier Bardeen, Cooper et Schrieffer, nous avions déjà postulé que la supraconductivité consistait trouvait son origine dans la cohérence des ondes de De Broglie qui représentaient les paires d'électrons dans le supraconducteur. Mais avant Josephson, personne ne pensait que la phase phi de ces ondes de matière, ces ondes macroscopiques, pouvaient être mesurables. Tout le monde pensait qu'elles étaient non mesurables. Mais Josephson a dit, bon, d'accord, peut-être que la phase d'un supraconducteur n'est pas mesurable, mais la différence de phase de deux supraconducteurs en contact l'un avec l'autre, contact par effet tunnel, elle peut être mesurable. Et c'est ça donc ce qu'a apporté Josephson. Donc comme je dis, Anderson était convaincu tout de suite. Le directeur de thèse de Josephson, Pippard, était nettement moins convaincu. Et puis il y a eu des physiciens célèbres qui se sont opposés frontalement à Josephson, en particulier donc en 1962 toujours, en septembre 62, Bardeen, qui était au congrès Low Temperature Physics à Londres ce mois de septembre, apparemment, j'y étais pas, hein, mais il y a eu un clash assez fort entre lui et Josephson. Et Bardeen, évidemment, était au relais de toute sa gloire de la théorie Bardeen-Cooper-Schrieffer, donc quand vous prétendez quelque chose sur la supraconductivité et que vous avez Bardeen contre vous, ce n'est pas si facile que ça à gérer. Mais Josephson ne s'est pas laissé démonter. Vous voyez, il y a eu ce petit dessin là, qui est sorti bien après dans Physics Today en juin 2001. Donc vous voyez où Josephson ici, qui pousse son wagon supercourant pour entrer dans un tunnel, avec 1962 de création du tunnel, et Bardeen face à lui qui s'oppose à ce passage par effet tunnel des paires de Cooper. Voilà. Donc ça, c'est 62. Il n'a pas fallu longtemps pour que la communauté soit convaincue que Josephson avait raison. Dès 1963, il y a eu des articles expérimentaux qui ont mis en évidence l'effet prédit par Josephson. Le premier, c'est par Anderson lui-même et Rowell, de retour au Bell Labs. Et puis, quelques mois après, là on est en juillet 1963, un article de Shapiro. On reparlera de Shapiro pour les résonances de Shapiro qui étaient présentes dans cet article, mais ça, ce sera dans un cours ultérieur. Mais disons qu'il y avait un article de Shapiro pour lequel la figure 1, eh bien, c'était, je dirais, la démonstration immédiate de l'effet Josephson. C'est-à-dire que vous voyez ici une caractéristique d'une jonction Josephson. Donc vous avez en ordonnée la tension aux bornes de la jonction. En abscisse, vous avez le courant qui traverse la jonction. Et ce qui compte pour nous ici, c'est ce plateau ici. C'est-à-dire que vous voyez qu'il peut effectivement circuler un courant non nul, positif ou négatif, alors même que la tension aux bornes de la jonction est nulle. Donc c'est ça que disait Josephson. Et donc la largeur de ce plateau est directement reliée à la différence de phase, on va le voir tout à l'heure, à la différence de phase entre les deux parties de la jonction, phi A moins phi B. Et puis on suivit donc à partir de ça. Bon, juste un mot sur le courant. Ici, vous voyez, le courant est d'ordre ici 200 nanoampères. Enfin, ici, on a moins 200 nanoampères. Ici, on est à plus 200 nanoampères. Et après, on suivit, après cette mise en évidence de l'effet, on suivit beaucoup de découvertes que je mentionnais tout en introduction. Les SQUID. SQUID, c'est un acronyme pour Superconducting Quantum Interference Device, qui sont des senseurs extrêmement précis de champ magnétique. Les standards électriques, avec le volt Josephson en 69, et puis l'effet tunnel macroscopique, une vingtaine d'années plus tard, donc, qui a valu leur prix Nobel à Clark, Devoré et Martinis. Et puis encore d'autres multiples applications que je n'ai pas listées ici, mais jusqu'au qubit supraconducteur aux alentours des années 2000. Alors, comme je disais aussi, l'effet Josephson est allé au-delà de plateformes à base de supraconductivité. Dans les années 66-73, notamment sous l'impulsion de Tony Leggett, s'est développée l'idée que l'effet Josephson pouvait également apparaître sous forme d'effet interne et non pas effet externe. C'est-à-dire que les deux supraconducteurs, ici phi A et phi B, qui sont séparés spatialement, eh bien, en fait, ils peuvent être mis l'un sur l'autre, mais correspondre à deux états internes possibles d'atomes, par exemple. Donc à ce moment-là, vous avez la phase phi A qui décrit l'assemblée d'atomes dans l'état A, la phase phi B qui va décrire la phase de l'assemblée d'atomes dans l'état B, et ce qui va venir remplacer le couplage tunnel, le passage de particules de A vers B et de B vers A, eh bien ce sera un couplage cohérent, une radiofréquence, par exemple, dans le cas de l'hélium-3, où cet effet a été mis en évidence, une radiofréquence qui fait ce couplage. Mais les équations de base sont exactement les mêmes, et on passera pas mal de temps cette année à voir justement cet effet Josephson interne. Et puis, en revenant vers l'effet Josephson externe, En 1985, alors toujours sur les plateformes d'hélium superfluide, hélium 3 fermionique ou hélium 4 bosonique, eh bien, on a pu mettre en évidence cet effet Josephson où la jonction tunnel initiale est remplacée par des parois percées de tout petits trous. Là aussi, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les cours. Et donc, comme je disais, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a des expériences avec des gaz d'atomes froids manipulés par laser. Et là encore, il y a beaucoup de résultats qui sortent. Je dirais, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait déposé sur l'archive de serveurs de préprint, qu'il n'y ait pas une semaine où il n'y a pas un article au moins dans lequel il y a le mot Josephson qui apparaît dans le résumé ou dans le titre. Voilà. Alors, le plan du cours sera le suivant. Aujourd'hui, on va parler donc des équations de base de l'effet Josephson et on verra sa transposition à un double puits de potentiel pour des particules matérielles comme des atomes. Ensuite, on s'intéressera à la dynamique d'une jonction Josephson, ça sera la semaine prochaine. Comment est-ce qu'on établit ces caractéristiques courant tension, par exemple. Et c'est là qu'on regardera... Pas très longtemps, mais on regardera l'effet tunnel macroscopique, c'est-à-dire le prix Nobel de l'an dernier. Dans le cours 3, on s'intéressera à l'effet Josephson alternatif, les résonances de Shapiro, et en particulier la manière avec laquelle on s'y prend pour réaliser des standards électriques. Comment est-ce qu'on peut, comme ça, mesurer des voltages, en particulier avec une très très grande précision. Et puis ensuite, eh bien, on s'intéressera à des aspects plus quantiques encore des jonctions Josephson avec les jonctions internes, les condensats fragmentés, et le dernier cours sera consacré aux squids, aussi bien les squids supraconducteurs que les squids atomiques. Voilà, donc ça c'est le programme pour les 6 semaines qui viennent. Comme toujours, ces cours sont accompagnés de séminaires. Et voilà, vous avez ici la liste des séminaires. Les résumés sont en ligne, hein, donc vous pouvez aller les voir. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, on aura la chance d'écouter Christophe Salomon, qui viendra nous parler de la toute première horloge à atomes froids mise en orbite. Elle a décollé il y a un an et un mois, c'était fin avril, je crois. Hein. Je ne sais pas où est Christophe, mais oui, il est quelque part. C'était fin avril, il me semble. Oui. 21 avril, voilà. Donc ça fait un an et un mois que l'horloge tourne autour de nos têtes et donc il y a des premiers résultats. Donc Christophe viendra nous parler. Voilà. La semaine prochaine, ce sera Monica Edelsberger de Max Planck et puis vous avez la liste ici qui suit. Bien. Donc comme je le disais, le cours d'aujourd'hui est consacré à la jonction Josephson et au double puits de potentiel. Et le plan de ce cours sera le suivant. On va commencer très doucement avec de l'électrocinétique de base, les circuits RLC. Je pense que là, vous serez en terrain familier. Mais ça va me permettre de mettre en place un formalisme qui n'est pas forcément celui qu'on voit quand on est au lycée, qui est le formalisme lagrangien pour un circuit LC. Et j'ai fait ça parce que, une fois qu'on sera familiarisé bien avec ces formalismes lagrangiens pour le circuit LC, ce sera assez naturel de le transposer aux jonctions Josephson. Et donc là, ce ne sera pas des choses qu'on voit au lycée, en tout cas pas à ma connaissance. Ensuite, on passera aux deux relations de Josephson, ce que Josephson a écrit dans son article initial. Et puis, j'introduirai ce modèle RCSJ, qui est donc une abréviation pour Resistively and Capacitively Shunted Junction, qui est un modèle qu'on utilisera très fréquemment ensuite, aussi bien pour les jonctions supraconductrices que pour les jonctions atomiques. Et puis, donc, je passerai ensuite au double puits de potentiel, la jonction Josephson pour les gaz d'atomes froids. Commençons donc par un petit peu d'électrocinétique de base. Donc, comme je le dis, là, ça va commencer par des choses que je pense vous connaissez tous. Donc, on va s'intéresser aux dipôles électriques. Dipôle électrique passif, hein, je ne vais pas mettre ici des générateurs de courant et des générateurs de tension, je veux juste prendre les éléments de base, les R, L et C, qui ont bercé notre enfance. Voilà. Donc, un dipôle électrique, je vais le représenter de manière très générale, par un rectangle comme ça. J'appelle A le point à gauche, B le point à droite. J'appelle grand I égale, c'est l'intensité qui circule de A vers B. Et j'appelle grand V, la différence de potentiel, VA moins VB. Voilà. Et donc, ces dipôles, il y a la résistance, bien sûr. De passe, la résistance, donc caractérisée par une valeur grand R qui relie donc le courant et la tension, V égale RI, Il y a les capacités qui portent donc une charge Q qui est égale à proportionnelle à la tension V, et le courant grand I, c'est simplement Q point, la dérivée de, temporelle de la charge. Et puis il y a les inductances caractérisées donc par la valeur grand L qui relie le flux phi, donc là, phi à l'intensité qu'il traverse. Et à ce moment-là, la tension V, c'est simplement la dérivée temporelle du flux. V égale phi point. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez tous. Et ce que j'aimerais, c'est donc là maintenant passer, mettre en place un formalisme lagrangien ou hamiltonien, enfin on va voir les deux, pour décrire ces dipôles. Alors je vais me mettre dans le cas où il n'y a pas de dissipation, puisque la dissipation ne peut pas être décrite de façon hamiltonienne. Donc je vais simplement considérer un circuit LC. Donc un circuit LC, je mets une inductance, comme ça, et puis une capacité, je mets tout ça en parallèle, j'appelle ce point-là le point A, ce point-là le point B. Je suppose que j'ai juste affaire à ce circuit-là, hein. Donc le courant total dans le circuit, il n'y a pas de courant qui rentre ni de courant qui sort, donc le courant IL qui traverse l'inductance plus le courant IC qui traverse la capacité doit être nul. C'est la loi habituelle sur les courants. Donc si j'écris ça en termes des variables que j'ai introduites ici, donc pour mon inductance, je vais commencer par la capacité, pour la capacité IC qui traverse la capacité, c'est Q point, et Q c'est CV, donc ça va être CV point. Je ne sais pas si je le mets comme ça, oui c'est pas mal. Et puis IL, eh bien c'est ce que j'ai écrit ici, c'est le flux phi divisé par l'inductance grand L. Donc si je choisis de travailler avec le flux comme variable, donc IL ici c'est phi sur L, plus IC, alors IC j'ai dit que c'était CV point, mais V c'est phi point, donc V point, la dérivée première, ça va être la dérivée seconde du flux, donc ça va me faire plus donc C phi point point égale à 0. Donc j'ai affaire à une équation du type phi seconde plus 1 sur LC phi égale 0, donc j'en déduis la fréquence de mon circuit, ça c'est avec le carré de la fréquence angulaire de la pulsation, donc oméga est égal à 1 sur racine de LC. Voilà, donc ça, moyennant une faute de calcul, mais je n'espère pas, ça doit être quelque chose que vous avez tous vu il y a longtemps, ou moins longtemps, selon la date de votre baccalauréat. Bien, alors maintenant, je passe aux énergies, puisque je veux mettre en place ce formalisme lagrangien et hamiltonien. Donc je regarde les énergies associées. Alors, l'énergie, donc, je la calcule en partant de la puissance instantanée. La puissance instantanée, comme vous le savez, c'est le produit tension fois intensité, P égale UI. Donc l'énergie, ça va être une intégrale de le produit tension fois intensité. Donc je l'écris comme ça, égale l'intégrale, une primitive de V de T' I de T' dT'. Je ne précise pas la borne inférieure, tout ça, je vais définir mes énergies à une constante près, hein, c'est pas, la constante ne va pas jouer un rôle dans la suite. Donc si je reprends ma capacité je vais l'appeler UC de T, qui est donc une primitive de, alors, V. Si je choisis toujours de travailler avec le flux ou avec la charge, ici, donc V, c'est Q sur C. Ici, donc Q de T' sur C. I, c'est Q point de T' dT'. Et donc ça va me donner Q carré de T sur 2C, plus une constante que je n'écris pas, mais qu'on peut toujours ajouter si la charge n'est pas nulle à instant T égale 0. Pour l'inductance, Donc UL de t, ça va être toujours la primitive de... Alors V de t', donc c'est là que je veux travailler avec le flux. V, c'est phi point. Donc phi point de t'. Ensuite, j'ai l'intensité I, qui est donnée ici par phi sur L. Donc phi de t' sur L. Et donc ça me donne phi carré de t sur 2L. Voilà, donc mes deux énergies, Q2 sur 2C, phi carré sur 2L. Bien, alors maintenant, passons à ces formulations, ça doit être l'avant-dernier point ici, formulation lagrangienne. Bon, il n'y a pas de mystère. Hein. Ce à quoi j'ai affaire ici, c'est un oscillateur harmonique. Hein. L'équation que vous avez ici, c'est l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc, ce qu'il faut simplement ici, pour faire une formulation lagrangienne, c'est que j'identifie correctement un terme d'énergie cinétique et un terme d'énergie potentielle. Et comme vous le savez, en fait, pour l'oscillateur harmonique, les deux sont un peu interchangeables. Donc là, je vais faire un choix. Je vais choisir de travailler avec le flux. Et donc, je vais prendre un choix pour ce que je vais qualifier d'énergie cinétique et ce que je vais qualifier d'énergie potentielle. Ce choix, je le fais parce que, en fait, ce sera lui qui sera pertinent pour la jonction Jeffson, qui, elle, n'est pas un oscillateur harmonique. La jonction Jeffson est non linéaire. Donc, le choix que je fais ici n'est pas le choix unique, mais c'est le choix qui se généralisera ensuite simplement pour la jonction. Donc, pour ma formulation lagrangienne, je vais prendre un lagrangien L qui va être fonction de variable phi et de la variable phi point, donc le flux qui traverse l'inductance. Et je mets ce lagrangien sous la forme 1 demi de C phi point carré moins donc le UL de phi. Et le UL de phi, c'est celui qui est écrit ici. C'est phi carré sur 2L. Donc je choisis de dire que la partie en inductive, si vous voulez, va jouer le rôle d'une énergie potentielle. Et ce qui sera de l'énergie cinétique, eh bien, ce sera plutôt la partie capacitive. Alors on peut vérifier que ça c'est bon, hein, en vérifiant que l'équation de Lagrange est bien vérifiée. Donc l'équation de Lagrange c'est d sur dt de dl sur d phi point qui doit être égal à dérivée partielle de l par rapport à phi. Et ça, ben, ça donne quoi? Dl sur d phi point c'est c phi point. Donc cette chose-là, c'est C phi point, je dérive par rapport au temps, donc ça va me faire du C phi seconde, égale DL sur D phi, DL sur D phi, c'est donc avec un signe moins, DUL sur D phi, et DUL sur D phi, c'est phi sur L. Donc c'est égal à moins phi sur L, et ça, c'est bien la même équation que celle-ci, phi sur L égale moins C phi point point. Donc cette équation-là, c'est bien la bonne. Donc, mon lagrangien est un lagrangien autorisé. J'aurais pu vous en trouver d'autres, hein, encore une fois, mais celui-là, il convient tout à fait. Bien, et alors, dernier point, donc, formulation hamiltonienne de ce problème. Il manque un N. Voilà. Donc, comme vous le savez probablement, pour passer de la formulation lagrangienne à la formulation hamiltonienne, il faut identifier le moment associé à la variable phi. Donc ça, le moment conjugué à phi, je vais donc écrire P phi, qui est DL sur D phi point. Et donc DL sur D phi point, c'est C phi point. Phi point, je vous ai écrit là-bas, c'est V, donc c'est CV si vous préférez. Et CV, c'est encore autre chose, c'est la charge qui est portée par la capacité Q. Donc le moment conjugué du flux, c'est la charge. D'accord ? Et une fois qu'on a ça, eh bien, je passe à l'hamiltonien. Donc l'hamiltonien, qui sera donc une fonction de phi et de pφ maintenant, je l'obtiens en prenant P phi, phi point moins L. Ça, c'est le formalisme habituel de passer du Lagrangien à l'Hamiltonien. Et donc, quand on fait le calcul, donc qu'est-ce qu'on a? P phi, phi point, comme P phi, c'est C phi point, ça va me faire du C phi point carré. Donc, je vais avoir un C phi point carré moins L, c'est-à-dire moins 1,5 de C phi point carré. Donc, il va rester 1,5 de C phi point carré. Ou, si vous préférez, P phi carré sur 2C. Et puis, la partie en moins L, le moins UL ici, va devenir du plus UL. Donc, au final, ce qui me reste ici, c'est P phi carré sur 2C, et puis le terme plus UL, donc le plus phi carré sur 2L. Voilà, donc ça c'est mon Hamiltonien H que j'obtiens pour mon problème. Voilà, Hamiltonien, encore une fois, d'oscillateur harmonique, hein, il n'y a pas de mystère. J'ai juste réécrit dans un formalisme qui est un petit peu compliqué une équation de base, encore une fois, qu'on a tous vu au lycée, au moins une fois, celle-ci. Mais maintenant, la plateforme pour ensuite passer à l'effet Jeson est bien établie. Voilà. Donc, avant de passer à l'effet Jeson, j'aurais dire un mot quand même de ce qu'on vient de trouver pour cette formulation lagrangienne. C'est que j'ai traité évidemment mes courants, mes tensions comme des variables classiques ici. Hein, encore une fois, je faisais de la physique de lycée. Mais vous savez qu'une fois que vous avez une formulation hamiltonienne pour un problème, ben vous pouvez vous dire que se passe-t-il si je traite quantiquement ce problème. On peut, si on veut, quantifier notre circuit LC. Alors, je ne vais pas le faire en grand détail ici, mais on a tous les éléments pour le faire. J'ai décrit mon système donc, par une paire de variables conjuguées, phi et pφ, ou si vous préférez phi et q, puisque je vous rappelle que le moment conjugué pφ, c'est égal à q, hein, c'est l'équation en bas tout au bout, là-bas, en haut tout au bout. On peut donc à ce moment-là associer des opérateurs au flux, associer un opérateur à la charge, donc je mets des chapeaux, phi chapeau, q chapeau, et la quantification canonique, celle qu'on apprend dans les livres, consiste à dire que ces opérateurs doivent vérifier une relation de commutation du type phi chapeau fois q chapeau doit être égal à ih bar. Voilà. Et faisant ça, ben ça y est, vous avez quantifié votre circuit LC. Encore une fois, c'est simplement la quantification de l'oscillateur harmonique en physique quantique que je suis en train de faire. Alors, pour aider à la ce qu'on verra plus tard quand on traitera notre jonction Jeson de manière quantique, je peux essayer de passer à des variables sans dimension pour avoir un formalisme qui sera bien unifié. On peut se donner une unité de charge naturelle, que je vais appeler Q0 ici. Dans un problème de supraconductivité, l'unité de charge naturelle, c'est la paire de Cooper, donc on prendra Q0 égale 2E, mais si j'avais une autre unité de charge à ma disposition, je prendrais autre chose comme valeur pour Q0. Donc donnons-nous cette unité de charge Q0. Là, j'ai mis par exemple 2E, pour deux fois la charge de l'électron pour une paire de Cooper, mais ça peut être autre chose. Si j'ai une unité de charge, j'ai aussi une unité de flux naturelle. Cette unité de flux phi0, c'est 2πH bar sur Q0. Et à ce moment-là, je peux introduire deux opérateurs sans dimension. Un opérateur que je vais appeler petit phi, chapeau, qui est le flux réduit, simplement grand phi mesuré à unité de phi 0, avec un facteur 2pi ici, qui vient juste compenser le 2pi que j'ai mis dans la définition de pi 0. Et puis, un opérateur qui va être le nombre de charges, c'est-à-dire que je prends la charge portée par le condensateur Q, et je la divise par mon unité de charge Q0. Donc c'est un nombre sans dimension, c'est combien est-ce que j'ai posé de charge sur mon condensateur. Et à ce moment-là, vous pouvez vérifier très simplement que la relation de commutation phi q égale ih bar devient simplement phi n égale i, c'est une relation sans dimension, c'est une relation de commutation qui donc relie la phase, enfin le flux, mais ça deviendra la phase plus tard, et le nombre de particules en jeu dans mon système. Voilà, c'est vraiment une relation importante qu'on va retrouver pour les jonctions Jeson un petit peu plus tard, mais je voulais le dire tout de suite, puisque là, on avait tout le formalisme pour le mettre au point. Bien. Alors, passons maintenant à la jonction Josephson. Donc, la jonction Josephson, comme je l'ai dit, quand Josephson l'a proposée, il s'intéressait à deux supraconducteurs qui pouvaient donc être reliés l'un à l'autre par effet tunnel. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des passages de paires de Cooper de cet état-ci à cet état-là, La barrière qu'on met ici peut être en pratique de différentes origines. Ça peut être un isolant, ça peut être un semi-conducteur, ça peut être un métal normal, non supra. Voilà, on peut mettre beaucoup de choses à cet endroit-là. Les épaisseurs typiques sont de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Comme vous le savez, l'effet tunnel varie exponentiellement vite avec l'épaisseur de la barrière. Donc, si on a quelque chose d'intéressant avec 20 nanomètres, si on passe à 200, ça ne va plus marcher, puisque si vous avez un effet tunnel qui vaut exponentiel moins 10 dans un cas, et que vous avez un petit courant tunnel, si vous passez à exponentiel moins 100, il ne restera plus rien. Donc, selon ce qu'on met, l'épaisseur est assez vite contrainte, mais les ordres de grandeur, c'est quelques dizaines de nanomètres. On s'est vite rendu compte qu'en fait, l'effet Josephson pouvait se généraliser à d'autres systèmes, comme par exemple ce système-là, où là, tout est supraconducteur, mais simplement j'ai une constriction, c'est-à-dire un tout petit passage pour les paires de Cooper de la partie de gauche vers la partie de droite. C'est ce qu'on appelle un lien faible, weak link en anglais, et ces liens faibles sont également descriptibles par un formalisme du type Jonction-Josephson. On représente ça de manière très, très symbolique par cette ligne ici avec une croix. Donc la croix représente la jonction Josephson. Donc à gauche, j'ai une fonction macroscopique pour une paire de Cooper qui est racine de roi, la densité de paire fois la puissance phi A, la phase. Ici, racine de rho B, puissance phi B. Si je prends le même supraconducteur à gauche et à droite, la densité et la même température qui est naturel dans une manip de basse température. À ce moment-là, les densités ρ et ρb sont égales, et tout ce qui compte, c'est donc les phases φ et φb, qui, elles, ne sont pas nécessairement égales, et le courant de Josephson va venir précisément de cette différence de phase φa moins φb. Donc, maintenant, on va écrire les deux relations de Josephson, et je vais le faire aussi au tableau pour que... On les a ensuite tout le temps sous les yeux. Donc je vais effacer ça. Et je commence donc par la première relation qui va relier le courant à la différence de phase. Donc j'ai ma jonction que je redessine. Ici j'ai le point A, ici j'ai le point B. Et j'ai donc le courant qui circule de A vers B. Je définis ma phase phi, qui est phi A moins phi B. Et la relation de Josephson, dans sa version la plus simple, mais qui est celle qu'on va exploiter, c'est écrit de cette manière-là, I égale une certaine intensité IC, le C voulant dire critique ou caractéristique, selon les cas. C'est parfois noté I0 aussi, mais là, comme j'aurai beaucoup de zéros après, je préfère le noter IC, fois sinus de phi. Alors, on peut mettre des harmoniques supplémentaires. En tout état de cause, il faut qu'on ait une fonction qui soit périodique de phi avec deux périodes de pi, parce que si je change phi en phi plus de pi, je retombe sur le même problème. La version la plus simple, encore une fois, celle qu'on va utiliser, c'est se limiter simplement à la première harmonique, donc I égale IC sinus phi. Alors IC, donc, ça dépend de la jonction. Hein. C'est une caractéristique de la jonction. Ce que vous voyez, c'est que comme phi va varier entre 0 et 2π, le courant I, sous cette forme-là, ce que je vais appeler plus tard une jonction idéale, va varier entre moins IC et plus IC. Donc IC, c'est le courant maximal qui peut circuler dans la jonction modélisée de cette façon-là. Si vous vous souvenez de la caractéristique que j'avais mise tout à l'heure, la première vue par Shapiro, là, le segment que vous aviez sur l'axe V égale 0, je peux le remettre, hein, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. C'était où ? C'était les toutes premières... Voilà, c'était celui-là. Là. Ici, ce segment-là. Voilà. Oups, non, c'est pas ça. Pardon, je vais y arriver. Non, décidément. Bon, voilà. On va dire ce segment-là, ici. Je ne sais pas si... Voilà. Ce segment-là, c'est entre moins IC et plus IC, et donc ici, IC valait 200 nanoampères. C'est une valeur qu'on peut prendre comme étant réaliste, mais il y a des jonctions qui ont des tailles bien plus grandes. Donc IC, je peux mettre ici une sorte d'encadrement. Les plus petites jonctions seront à 10 nanoampères, et vous avez des jonctions qui montent jusqu'à 1 milliampère. sont très grandes, selon les applications. Donc, c'est pas très précis, ça, parce que je vous donne 5 ordres de grandeur, mais enfin, bon, selon les réalisations, on peut avoir des IC qui varient dans cette plage-là. Alors, je ne vais pas la démontrer, cette relation. Josephson l'a démontrée à partir de la théorie BCS, Bartin, Cooper, Schrieffer. Il y a dans le cours de Feynman une démonstration. Feynman a fait son cours de physique peu d'années après ça, 2-3 ans après. Il y a une démonstration qui a l'air très simple, mais qui, comme toujours avec Feynman, en fait, cache pas mal de subtilités. Donc je ne vais pas la démontrer. En fait, on va la démontrer tout à l'heure pour le double puits avec des atomes. Et là, c'est finalement plus simple parce que le nombre de particules est bien conservé avec le double puits et on est sur des bases fermes. La démonstration de Feynman, encore une fois, est merveilleuse, mais elle cache quand même quelques difficultés qui ne sont pas anodines. Je peux quand même vous en donner une justification qualitative. Supposons que la phase de mon supraconducteur soit toujours bien définie, même au travers de la barrière. Donc cette phase, je la note θ de x, et supposons donc au travers de la barrière, donc j'ai x ici, θ de x qui est cette phase, eh bien j'ai une phase qui varie par exemple comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai la valeur φ a, ici j'ai la valeur φ b, et puis dans la barrière, ici, bah, j'ai une phase qui varie. Voilà, c'est... Je passe de phi A à phi B de manière à peu près continue, comme ceci. Bien, donc si je dis ça, donc la différence de phase phi, c'est cette différence-là, hein, le phi, que phi égale phi A moins phi B, c'est cette différence de phase-là. Prenons une paire de Cooper. Quelque chose qu'on apprend en physique quantique, c'est qu'il y a une vitesse associée à une particule, et cette vitesse, et c'est, si je veux la calculer de manière semi-classique, c'est le gradient de la phase de la fonction d'onde. Ce que je suis en train de vous dire, ça relève de ce qu'on appelle le courant de probabilité en physique quantique, c'est une des choses qu'on apprend en premier. La vitesse d'une particule, V, je peux le mettre ici, c'est h bar sur m, si je me mets à une dimension, dθ sur dx, où θ est la phase de la fonction d'onde. Donc si je prends ma paire de Cooper ici, ici, bon, j'ai une phase qui va varier. Alors là, tel que j'ai dessiné, par exemple, le dθ sur dx est négatif. Donc ça veut dire que la vitesse de mes paires de Cooper, ici, V, va être négative sur mon dessin, puisque la phase θ diminue, donc elle a un gradient négatif à cet endroit-là. Par ailleurs, la charge de mes paires de Cooper, c'est moins 2E. 2E, je l'avais trouvé tout à l'heure, je l'avais pris positif, donc la charge de la paire de Cooper, c'est moins 2E, qui est négatif aussi. Donc j'ai un courant de particules négatives, dans ce cas-là, qui va circuler à droite vers la gauche. Et ce courant, il fera intervenir la dérivée de la phase. Donc plus j'aurai une grande différence de phase ici, plus ce sera grand. Si les phases sont égales, je n'aurai pas de courant. Si je me limite aux petits phi qui sont écrits ici, si je prends la sinus phi par phi, c'est exactement ce que j'attends de cette relation-là. Donc j'ai un courant de particules négatives qui va de la droite vers la gauche. Et donc le courant électrique, lui, va aller de la gauche vers la droite. Et on sent bien qu'il sera effectivement proportionnel à la vitesse avec laquelle cette phase varie, donc avec ce sinus phi-là, la différence de phase de la gauche à droite. J'insiste bien que ce que je vous dis là, c'est qualitatif. Hein, mais on verra tout à l'heure comment faire des choses plus quantitatives avec des ondes associées à des atomes. Voilà, donc j'ai un courant positif. Hein, ici, je peux conclure. Courant positif. Comme cela, si phi est positif, c'est-à-dire si phi a est plus grand que phi b. Bien, maintenant, la deuxième relation de Josephson. Je vais effacer mon lagrangien. Donc la deuxième relation va nous dire ce qui se passe s'il y a une différence de potentiel non nulle entre les bornes A et B. Là, ici, ce que j'ai dit, c'est vrai tout le temps, mais c'est vrai en particulier si le potentiel électrique de A est égal au potentiel électrique de B. Le courant dépend simplement de la phase phi A moins phi B, mais ne dépend pas de phi A moins VB. La deuxième relation va nous dire ce qui se passe si j'ai maintenant une différence de potentiel, c'est-à-dire si j'ai ma jonction qui est ici, si j'ai un point A ici, un point B ici, je mesure la tension aux bornes de A et B, et je me demande donc comment évolue mon système. Eh bien, ce que montre Josephson, toujours à partir des relations, de la théorie de BCS, c'est que la phase phi, enfin la différence de phase phi, va évoluer, et va évoluer de la manière suivante, h bar phi point, donc h bar d phi sur dt, est égal à 2e fois la différence de potentiel, v, qui est encore une fois égale à va moins vb. Voilà, donc ça nous dit comment la jonction se comporte si on met une différence de potentiel à ses bornes. Je vous rappelle que 2e est positif, hein, ici. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que moins 2e était négatif, la charge d'une paire de Cooper. Alors, là encore, je ne vais pas le justifier rigoureusement, mais il y a un moyen de comprendre assez simplement cette relation, qui est de revenir à ce qui se passe quand vous préparez un système dans un état propre de son hamiltonien. Donc, je vais appeler cet état psi e. Donc, si je prends un système dans un état propre de hamiltonien, vous savez que son évolution temporelle, simplement un facteur de phase, est puissance moins iet sur h bar. Donc, si je prends un psi e à l'instant t, c'est e puissance moins i e t sur h bar psi e à l'instant 0. Donc, si maintenant je prends une paire de Cooper qui est dans cette zone-là, ici, son énergie grand E, EA, je peux l'écrire, ça va être égal à moins 2E fois le potentiel électrique VA. Même chose pour EB, ça va être moins 2E VB. Donc, ce que je vais voir apparaître pour une paire de Cooper du côté A, eh bien, c'est que sa phase phi-A, si je me écris simplement cette exponentielle, je vais apparaître exponentielle de moins fois moins 2e, donc 2e, j'ai un i bien sûr, et v, t sur h bar, donc va, voilà, et puis même chose pour la particule b. Et vous voyez donc que j'ai une phase qui va varier, cette phase, la phase phi a moins phi b, ce sera 2e va sur h bar moins 2e vb sur h bar, quand je vais faire phi a moins phi b, et donc si je fais la différence phi a moins phi b, ça évolue bien comme h bar phi point égale 2e fois va moins vb. Donc cette relation-là, vous pouvez la comprendre directement à partir de cette évolution simple qu'on connaît en physique quantique. Voilà, donc là, eh bien, on a les deux relations de Josephson. Je les encadre, donc ça c'est la deuxième, il ne faut pas que je rate le point, sinon ça va être catastrophique, et puis ici la première, I égale IC sinus phi. Voilà. Et ça décrit ce qu'on peut appeler une jonction idéale. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que ces deux relations ne peuvent pas suffire à décrire complètement ce qui se passe sur une jonction. Par exemple, si je prends une jonction et que je la branche sur un générateur de courant et que le courant qui est délivré, grand I, est plus grand que IC. Que va-t-il se passer? Clairement, je ne suis pas capable de répondre à ça, puisque le I ici est forcément borné par IC. Ensuite, il y a des effets capacitifs dans ces jonctions qui ne sont pas décrits non plus ici. Donc, pour aller plus loin, on s'est vite rendu compte qu'il fallait introduire un modèle un peu plus complet de la jonction, et c'est ce qu'on appelle le modèle donc RCSJ, Resistively and Capacitively Shunted Junction. Donc une jonction réelle se décrit de la manière suivante. Vous avez d'abord la jonction idéale, IC sinus phi, pour laquelle les deux relations du tableau qui sont encadrées ici vont s'appliquer stricto sensu. Et puis on met en parallèle deux autres caractéristiques de la jonction qui sont une résistance grand R et une capacité grand C. Alors, ces valeurs de C et de R dépendent là encore beaucoup des jonctions qu'on considère. Ici, je vous ai mis, pareil, comme pour l'intensité des ordres de grandeur, pour la capacité, disons que ce sera entre 10-15 et 10-10 farads, j'ai toujours 5 ordres de grandeur, donc je suis assez prudent. Et pour la résistance, je vois que j'ai mis que 3 ordres de grandeur, entre 0,1 et 100 ohms. La capacité, c'est essentiellement la véritable capacité électrique formée par les deux jonctions de la paroi. Vous avez des charges qui peuvent s'accumuler, donc elle va dépendre de l'air, de la jonction et tout ça. La résistance, enfin la dissipation, décrite par R, elle peut avoir une origine très variée. Ça peut être un courant de quasi-particules à température non nulle. Ça peut être lié à des défauts de la barrière, des inhomogénéités, des petits ponts qui peuvent se produire qui favorisent l'effet tunnel. Voilà, dans R, on peut mettre beaucoup de choses, et ça, ce qu'on y met dépend beaucoup de la jonction qu'on fabrique. Alors, là encore, je vais repasser au tableau, je pense que ce sera peut-être l'une des dernières fois, pour décrire maintenant comment est-ce qu'on va s'y prendre pour décrire ce modèle donc, qui va nous occuper beaucoup, ce modèle RCSJ. Donc, le modèle RCSJ. Et ce que je veux à ce stade, c'est écrire donc le courant total qui circule dans une jonction décrite par ces paramètres-là. Donc ce courant, quel est-il? Alors c'est grand I, dans les notes, je la note soit grand I extérieur quand il risque d'y avoir une ambiguïté. Donc là, I c'est le courant total, donc ça va être la somme des trois courants. Le premier, bah, c'est IC sinus phi. Je vous ai dit, la partie supérieure, là, c'est ma jonction idéale. Donc là, je n'ai pas le choix. Ensuite, j'ai le courant qui va circuler dans la résistance. Donc ça va être V sur R. Et ensuite, eh bien, j'ai ce qui circule dans la capacité. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au tableau. Hein. L'intensité, c'est Q point. Q, c'est CV, donc c'est CV point. Bien, et par ailleurs, la tension V et la phase phi sont reliées par la deuxième relation de Josephson. Donc ce que je peux faire, c'est éliminer V ici pour le remplacer par phi, et comme ça j'aurai une équation qui ne contiendra que phi, plus le courant extérieur que j'impose. Donc ça c'est cette relation que je vais écrire, I égale donc IC sinus phi, lui il n'est pas changé, plus V sur R. Alors V, on l'a ici, c'est H bar sur 2E phi point, donc je vais en avoir un H bar sur 2E R phi point, plus CV point, donc plus C fois H bar sur 2E, H bar C sur 2E phi seconde. Voilà. Et donc ça, c'est une équation qui est remarquable, puisque c'est une équation qui me permet de décrire comment est-ce que ma jonction de Josephson se comporte quand je l'alimente par un générateur de tension, grand I. Et à ce stade, grand I peut être constant, ça peut être un générateur de tension constante, ou modulé, hein, c'est toujours vrai. C'est une équation différentielle donc, du deuxième ordre, mais qui est donc non linéaire. Ici, vous avez un sinus phi, donc ça rend les choses plus compliquées que ce qu'on a vu pour le circuit LC. Voilà. Alors, la dernière chose qui me reste à faire, c'est déterminer les énergies, tout comme on l'avait fait pour le circuit LC, c'est déterminer les énergies pertinentes pour cette jonction. Donc, de nouveau, les énergies en présence. Donc, j'ai une énergie qui va être liée à la capacité C. Je vais me contenter des termes non dissipatifs. Donc, je ne mets pas la résistance qui est à part, mais j'ai mes termes non dissipatifs. Donc, la jonction idéale et la capacité. Je peux commencer par la capacité, puisque elle, on la connaît déjà. Donc, on a vu tout à l'heure que l'énergie, je l'avais appelée UC, hein, je crois, il me semble. UC, c'était Q carré sur 2C. Q, c'est CV, donc ça fait C sur 2 V carré, et V, ben, on sait ce que c'est phi point. Hein. Donc ici, je vais avoir, quand je remplace V par sa valeur, donc V, c'est H bar sur 2E, je vais avoir du C H bar 2 sur 2 fois 2E au carré, phi point au carré. J'espère que je ne me suis pas trompé, H bar 2C sur 2E, voilà, c'est bien. Et puis ensuite, j'ai la partie jonction idéale. Donc là, il faut que je revienne à la formule initiale, qui était donc l'intégrale une primitive de V de T' I de T' dt'. Et ça, qu'est-ce que ça donne pour ma jonction? Ben, ça donne V, encore une fois, je le connais, c'est la deuxième relation de Josephson, H bar sur 2E phi point de T'. Et puis I de T', ce qui circule dans ma jonction idéale, c'est la première relation de Josephson, c'est le IC sinus phi. IC sinus de phi de T' dt'. Voilà, donc il y a un préfacteur qui sort, qui est h bar ic sur 2e. Et puis ensuite, je dois voir une primitive de phi point sinus phi de t prime. Ben là, je reconnais la dérivée de cosinus de phi de t, au signe près. Donc, mon énergie uj, c'est moins h bar sur ic, cosinus de phi de t. Voilà, donc ça, c'est le uj de t. Et j'ai maintenant donc mes deux énergies. J'ai une énergie qui est phi point carré, qui va ressembler à une énergie cinétique, bien sûr, et puis une énergie en moins cosinus phi, qui est une sorte d'énergie potentielle. Et ça, donc, ça me décrit mon modèle que je peux qualifier CSJ, puisque là, je n'ai pas mis la résistance, je n'ai pas mis de friction. Alors, ça doit vous rappeler des choses. Hein. Une énergie cinétique en phi point carré et une énergie potentielle en moins cosinus phi, ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend au lycée. C'est simplement un pendule pesant. Hein, si je vous donne un pendule pesant, il ne faut peut-être pas que il a le droit d'aller vers le haut, donc je vais le dessiner seulement avec un point d'attache, comme ça. Voilà. Si je vous donne un pendule pesant comme ceci, si je dis que phi représente l'angle du pendule par rapport à la verticale, eh bien, l'énergie cinétique sera effectivement proportionnelle à phi carré. Ça me dépendra évidemment de la masse que je vais donner à mon pendule pesant ou de son moment d'inertie. Et son énergie potentielle est bien en moins cosinus phi. C'est-à-dire que moins cosinus phi, c'est ce qui repère la position du pendule pesant par rapport à sa position d'équilibre en bas. Voilà, donc de ce point de vue-là, une jonction Jeffson, c'est rien d'autre, enfin traité classiquement, c'est rien d'autre qu'un pendule pesant. Voilà, c'est ce que j'avais dû écrire en bas à droite sur la diapositive. Là. Alors, quand vous étudiez au lycée un oscillateur comme ça, donc un oscillateur non harmonique, la première chose qu'on vous demande, c'est quelle est la fréquence des petites oscillations autour de la position d'équilibre, où là, vous pouvez linéariser les équations du mouvement et retrouver un oscillateur harmonique. Eh bien, c'est ce qu'on peut faire pour la jonction. Hein. Donc, si je prends donc, ce modèle où j'ai simplement ma jonction idéale et puis une capacité, donc les équations du mouvement, ici, c'est simplement, je ne mets pas de courant extérieur, donc... Le I qui est ici, il vaut 0. J'ai oublié la résistance. Si vous voulez, j'ai pris la résistance infinie ici. Donc, j'ai simplement IC sinus phi plus H bar C sur 2 phi seconde. Et je vais prendre les petites oscillations. Donc, je vais remplacer sinus phi par phi. Et donc, j'obtiens une équation de nouveau linéaire. Donc là, tout est simple. Qui va donc être IC sinus phi, IC phi plus H bar C sur 2 phi seconde. Et c'est donc un mouvement harmonique de pulsation oméga qui fait intervenir 2 IC sur H bar C. Donc de ce point de vue, une jonction Josephson avec une petite différence de phase entre les deux, ça se comporte un peu comme une inductance. Hein, puisque j'aurais mis une inductance à la place de ma jonction dans la partie ici, j'aurais également eu ces oscillations oméga. Et je peux relier donc l'inductance qu'il faut mettre à la valeur de IC. Alors pour la suite, ce sera intéressant de paramétriser le problème, non pas avec IC et C, mais avec des énergies qui sont directement reliées. Pour C, pour la capacité grand C, une énergie naturelle, c'est de regarder quelle est l'énergie que je dois donner pour mettre une charge élémentaire sur cette capacité. Alors par charge élémentaire, ici j'entends une paire de coupeurs, hein, c'est donc c'est pas la charge d'électrons, c'est deux fois la charge d'électrons sur la capacité. Cette énergie, c'est le carré de la charge divisé par C, c'est ce qu'on a vu ensemble à des facteurs près, numériques près. Donc ça, le EC que je vais définir, c'est 2E carré sur C. Et pour EJ, eh bien, pareil, on va prendre quelque chose qui est relié à la charge, ce sera H bar IC sur 2E, vous pouvez vérifier que ça a bien la dimension d'une énergie. Et quand on paramétrise le problème comme ça, eh bien, le H bar oméga que je vous ai écrit ici, je vous laisse vérifier, c'est simplement la moyenne géométrique de mes deux énergies caractéristiques, la capacité et la jonction, EC EJ. Et si je peux vous donner un ordre de grandeur de cette fréquence caractéristique qu'on appelle fréquence des oscillations plasma, parce que c'est le plasma électronique qui oscille, eh bien, les valeurs caractéristiques, si vous prenez un IC qui est de l'ordre du microampère, une capacité qui est de l'ordre du picofarad, c'est à peu près au milieu des bornes que je vous avais données tout à l'heure, eh bien, vous trouvez une fréquence de l'ordre de 10 GHz. Et c'est effectivement ce type de fréquence qu'on trouve toujours pour les jonctions Josephson supraconductrices, comprises entre 1 et 100 GHz, typiquement, les valeurs caractéristiques. C'est des fréquences élevées, hein, c'est ça qui fait l'intérêt des jonctions supra, c'est qu'on a des taux de répétition très élevés. Voilà. Bien. Eh bien maintenant, j'aimerais passer aux atomes et donc à la jonction Lefson pour un condensat de Bose-Einstein d'atomes. Alors, on va ici décrire ce qui se passe pour un condensat que je sais que je décrirai lui-même par une approximation de champ moyen, qui est donc cette équation de Schrödinger non linéaire ou équation de Gross-Pitayevski. On a également réalisé dans les laboratoires des jonctions Josephson pour des gaz d'atomes froids avec des gaz de Fermi superfluides en interaction forte. C'est plus compliqué à décrire parce qu'on n'a pas une équation si simple, si je puis dire, que l'équation de Schrödinger non linéaire. Donc ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est le faire avec l'équation Schrödinger non linéaire parce qu'on peut faire tous les calculs relativement simplement. Bon, il faut parfois céder dans l'ordinateur, mais c'est relativement simple. Mais en fait, ce que je vais dire dépasse le cadre de ces condensats, pourvu qu'on se ramène à un certain nombre de paramètres phénoménologiques. Donc notre condensat de Bose-Einstein, donc, comme je le dis, je le décris par une approche champ classique, une approche champ moyen. C'est une équation de Schrödinger non linéaire, donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vue, mais ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai mis un petit appendice dans les notes d'aujourd'hui pour vous résumer comment est-ce qu'on l'établit. Elle ressemble, dans sa partie initiale, à l'équation de Schrödinger habituelle. Vous avez à gauche IH bar dψ sur dt égale un terme d'énergie cinétique, donc moins H bar carré sur 2m, laplacien ψ, un terme d'énergie potentielle V, ψ, qui décrit donc le potentiel qui va confiner nos particules, nos atomes en l'occurrence. Ce sera le potentiel qui fera le double puits pour faire les deux parties de la jonction. Et puis le terme supplémentaire, le terme non linéaire, c'est un terme qui décrit les interactions. Et c'est un terme qui est local, on suppose que les interactions sont locales. C'est un terme qui fait donc intervenir la densité atomique. La densité atomique, c'est, je peux l'écrire ici, ρ de R, c'est grand N fois ψ carré. Ma fonction d'onde ici, je la suppose normalisée. Je suppose que l'intégrale de ψ carré sur tout l'espace est égale à 1. Donc ce terme d'interaction ici, c'est simplement proportionnel à la densité, avec un coefficient de probabilité petit g qui décrit la force des interactions. Et petit g, je vais toujours le prendre positif, c'est-à-dire que les atomes effectivement se repoussent, ils tendent à occuper tout le volume de la boîte que je leur propose. Alors ce double puits, maintenant, donc, puisque je veux réaliser l'équivalent d'une jonction, on peut partir d'un potentiel harmonique, comme ici, on peut partir d'une boîte à fond plat, comme là, vous pouvez prendre ce que vous préférez. Au centre, on va mettre une barrière que les atomes pourront franchir par effet tunnel. Cette barrière, en général, dans les expériences, est faite par un faisceau laser très focalisé. Le col du faisceau laser est de l'ordre du micromètre. Et les atomes à gauche et à droite sont décrits par leur potentiel chimique. Je vais mettre à température nulle. Donc, ils sont décrits simplement par leur potentiel chimique qui résulte à la fois de l'énergie cinétique et des énergies d'interaction. Et je suppose que la barrière que je mets ici a une hauteur qui est comparable au potentiel chimique, voire souvent légèrement supérieure, de sorte que le seul moyen pour une particule de passer de A vers B ou de B vers A, c'est effectivement de passer par effet tunnel, ici. Alors, il y a une différence importante avec un supraconducteur qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on ne va pas obtenir exactement les mêmes équations que celles que j'ai écrites au tableau, c'est que le supraconducteur est un système ouvert. Quand j'ai mes deux morceaux de supraconducteurs que j'ai appelés A et B et que j'ai une paire de Cooper qui passe de A vers B ou de B vers A, j'ai dit que la densité restait néanmoins constante. C'est-à-dire qu'il y a des générateurs derrière, que je n'ai pas décrits, qui servent à maintenir la densité. C'est ça la subtilité dans le raisonnement de Feynman. Les générateurs sont mis de manière très subreptice, comme ça. Voilà. Donc, il y a des générateurs, donc on a un système ouvert. Et donc, il s'agit de bien décrire ce système ouvert, si on veut le faire complètement correctement, pour expliquer pourquoi, bien qu'il y ait des particules qui passent de A vers B ou de B vers A, eh bien, les densités restent constantes. Nous, avec nos atomes, on a affaire à un système fermé. C'est-à-dire que ce qui est constant, ce n'est pas les densités, ce sera le nombre total d'atomes. Si j'ai des particules qui passent de A vers B, eh bien, comme le nombre de particules dans A va diminuer, le potentiel chimique dans A va diminuer, le potentiel chimique dans B va augmenter. Alors, est-ce que c'est important ou pas? On le verra ensemble, ça dépend des cas, mais c'est une différence au moins conceptuelle importante. Alors, pour avancer, on va se limiter au modèle le plus simple possible, qui est un modèle à deux modes. C'est-à-dire que je vais supposer qu'on dispose de fonctions phi A et phi B, phi A de R et phi B de R, qui sont fixes, indépendantes du temps, qui me décrivent l'état d'une particule dans le puits de gauche et l'état d'une particule dans le puits de droite. Je vous dirai dans un instant comment est-ce qu'on les construit, ces phi A et phi B. Mais je suppose que je les ai à ma disposition. Et je vais donc me limiter à des états du système qui sont des combinaisons linéaires de phi A et de phi B. Donc le psi que je vous écris ici, c'est une fonction macroscopique, fonction partagée par toutes les particules du système, et c'est donc des superpositions cohérentes avec des poids, enfin des amplitudes alpha et alpha b de ces états, de ces modes spatiaux phi A de R et phi B de R. Donc phi A et phi B dépendent de R, alpha et alpha b dépendent de t. Voilà. Et je suppose que alpha carré plus alpha b carré est égal à 1 à tout instant t. Alors, comment obtenir l'évolution des coefficients alpha et alpha b? Ben là, je dirais que c'est assez simple, hein, puisqu'on a l'équation de Gross-Pitalevski. Ben, ce qu'on peut faire, c'est prendre cette ansatz-là, si vous voulez, cette fonction d'onde sous cette forme-là, l'injecter dans l'équation de Gross-Pitalevski et la projeter, cette équation, sur les modes phi A et phi B. Et faisant ça, eh bien, vous aurez les équations d'évolution de alpha de t, alpha b de t, sous la forme IH bar alpha A point égale, IH bar alpha B point égale. Une autre méthode, peut-être un petit peu plus rigoureuse, en tout cas plus facile à généraliser, c'est de considérer ce problème, le même problème, comme un problème variationnel. C'est-à-dire que, bien sûr, je sais que la fonction d'onde de l'état de mon système peut être plus compliquée que ça, mais je vais dire que je décris mon système par cette classe de fonctions d'essai, qui sont donc ces combinaisons linéaires de phi A et de phi B. Et je vais donc chercher dans cette classe de fonctions d'essai à minimiser une action, donc c'est le principe d'une méthode variationnelle, pour établir les équations d'évolution de alpha A et de alpha B. Les deux méthodes conduisent au même résultat, hein, rassurez-vous. Donc il n'y a pas de. Vous prenez le point de vue que vous préférez selon vos goûts. Donc pour la méthode variationnelle, ce qu'il faut, c'est établir l'énergie grand E de alpha A, alpha B, et puis ensuite écrire les équations variationnelles. Voilà. Donc les deux sont décrites dans les notes en détail, hein, donc je vais donner les grandes lignes dans ce qui suit. D'abord, comment est-ce que je construis les modes phi A et phi B? Je vais me considérer, pour simplifier, un cas symétrique. Donc là, j'ai pris, par exemple, une boîte carrée qui s'étend entre, ici, ben, ça doit être moins 50 à plus 50 unités réduites. Je mets une barrière centrale, ici. Et ce que je peux commencer par faire, en me plaçant dans le cas où les particules se repoussent, hein, c'est chercher à l'état fondamental de fonctionnel d'énergie de Gross-Pitalevski. Eh bien, ça a l'allure suivante, c'est-à-dire que j'ai une densité qui est presque constante dans la partie de gauche, une densité qui est presque constante dans la partie de droite. Je dis presque parce que sur les bords, il faut que la fonction s'annule en moins 50 et en plus 50, là. Et puis, au niveau de la barrière, j'ai pris une barrière carrée, hein, pour faire le calcul, donc c'est cette barrière grisée, là. Puis la fonction décroît, c'est le principe de Fé-Tunnel, ici. Et puis, elle est toute petite au centre, et puis elle réaugmente ici. Voilà. Bien, donc, cet état, qui est donc un état fondamental, il n'a pas de nœud, hein, ça on le sait, pour l'équation Schrödinger c'est bien connu que l'état fondamental n'a pas de nœud, c'est vrai aussi pour l'équation de Gross-Pitalevski, donc il n'a pas de nœud, je peux le choisir réel et positif. Voilà, donc c'est ce que j'ai tracé ici. Ensuite, je peux construire un deuxième état pour l'équation de Gross-Pitalevski, pour l'énergie, en imposant à cet état de s'annuler en x égale 0. Si vous voulez, je cherche maintenant l'état d'énergie la plus basse dans la famille des fonctions impaires. Je fais la même chose et je tombe sur ce qui est représenté ici. Là encore, cet état, je peux le choisir réel. Cette fois-ci, je ne peux pas le choisir positif partout puisque, précisément, je m'impose de changer de signe en zéro. Donc, je peux dire que je vais le prendre positif à droite et puis négatif à gauche. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, les densités que j'ai ici et puis là, quand je prends les modules carrés de phi 1 ou le module carré de phi 0, je vais trouver quasiment la même chose. La seule différence notable, c'est à l'intérieur de la barrière, où là, j'ai une probabilité de présence nulle, strictement, en x égale 0. Donc j'ai une différence d'énergie entre E1 et E0. E1 a une énergie légèrement supérieure à E0, puisque de toute façon je vous ai dit que E0 c'était l'énergie la plus basse. Donc E1 a une énergie légèrement supérieure à E0, mais si ma barrière tunnel est assez haute, eh bien cette différence E1-E0 est très très petite devant le potentiel chimique. Bien, alors une fois que j'ai ça, comment est-ce que je construis mes états phi A et phi B? Ben, c'est très simple, hein. J'ai mon phi 0 qui est là, mon phi 1 qui est là, eh bien je vais prendre les combinaisons linéaires symétriques et antisymétriques de phi 0 et de phi 1. Si je prends la combinaison linéaire symétrique, phi0 plus phi1, eh bien, dans la partie de droite ici, ils sont tous les deux positifs, donc ils vont s'ajouter, c'est la courbe bleue ici, et au contraire, ils vont se soustraire dans la partie de gauche. Et comme je vous ai dit qu'ils avaient le même module, puisque les densités étaient égales, eh bien, donc ici, ça s'annule, ma fonction phi b, ma fonction symétrique, et de la même façon, la fonction phi a, qui est antisymétrique, phi 0 moins phi 1, est localisée à gauche et quasiment nulle à droite. Voilà. Et c'est comme ça que je construis les états phi a et phi b de manière rigoureuse. Donc mes états accessibles, comme je l'ai dit, ce sont les combinaisons linéaires de phi a et de phi b, avec alpha a carré plus alpha b carré égale 1. Si j'ai envie de connaître le nombre de particules dans chacun des puits, je les lis simplement. Hein. Le nombre de particules dans le puits A, ce sera grand N fois le module d'alpha carré. Le nombre de particules dans le puits B, ce sera grand N fois alpha B carré. Le nombre total vaut bien grand N. Alors, il importe de bien comprendre que cette approche que je suis en train de vous montrer là, elle est bien adaptée pour décrire des situations qui sont proches de l'équilibre, c'est-à-dire quand NA est de l'ordre de N sur 2 et quand NB est de l'ordre de N sur 2. C'est une approche qui va négliger toutes les excitations à l'intérieur des puits. Pour revenir au premier point, avant de parler des excitations, si jamais vous vous amusez à dire, maintenant je vais prendre toutes mes particules qui étaient dans le puits de droite, là, et puis je vais les mettre toutes dans le puits de gauche, c'est-à-dire je vais mettre grand N particules à gauche et zéro à droite. À ce moment-là, votre potentiel chimique à gauche va devenir très grand, il va devenir plus grand que la hauteur de la barrière, et il est clair que ma fonction d'onde ne sera pas du tout descriptible comme une combinaison linéaire de phi a et de phi b. Donc, il faut que je m'écarte assez peu de la position d'équilibre pour que cette description en termes seulement de phi a et de phi b soit valable. Il faut que je m'écarte peu, il faut que les déviations soient faibles pour que la description en termes de phi a et de phi b soit valable. Par ailleurs, donc, comme je disais, ça néglige toutes les excitations à l'intérieur d'un des deux puits. Si vous vous intéressez au cas où il y a une onde sonore, par exemple, qui se propage dans phi a et vous dites j'aimerais bien savoir comment cette onde sonore passe de A à B, c'est un problème tout à fait légitime et intéressant, mais il ne faut pas espérer le décrire avec cet ansatz-là. Il faut enrichir l'ansatz pour mettre ici la possibilité d'avoir un phi a qui va osciller beaucoup à l'intérieur du puits A et beaucoup à l'intérieur du puits B. Donc c'est une approche qui est bien, mais qui est bien sûr limitée. Il faut être conscient de ses limitations. En gros, elle est correcte si je me limite à des énergies d'excitation qui est de l'ordre de E1 moins E0, c'est-à-dire les deux états symétriques dans le symétrique que j'ai construit tout à l'heure, mais il ne faut pas chercher à aller trop au-delà. Bien, donc on a un système que je décris avec mes deux amplitudes, alpha et alpha b. En fait, on ne va pas garder alpha et alpha b comme variables, ce n'est pas les variables les plus parlantes physiquement, donc on va faire un changement de variable qui est tout à fait naturel compte tenu du problème qu'on veut décrire, qui est le problème des jonctions Jeffson. C'est-à-dire que je vais m'intéresser d'abord au module de alpha a carré et au module de alpha b carré, sachant que la somme de leurs modules vaut 1. Et je vais me souvenir que na à l'instant t, c'est donc n fois alpha a carré de t. Donc ça, je vais l'appeler n bar. N bar, c'est un point de consigne, ou c'est l'instant initial où j'ai préparé mon puits. N bar, ce n'est pas forcément strictement égal à n sur 2, ça peut dévier un peu par rapport à n sur 2, c'est comment je l'ai préparé. Mais ce qui m'intéresse, c'est la déviation ensuite, comment est-ce que na de t évolue. Donc je vais écrire na de t sous la forme n bar plus n de t. Puis bien sûr, comme le nombre de particules totales est conservé, je vais avoir pour nb de t, nb bar moins n de t. Donc première variable que je vais introduire, c'est petit n de t. Et puis ensuite, eh bien, on l'a vu, pour la jonction Jeffson, ce qui est important, c'est la différence de phase, phi a moins phi b. Les coefficients alpha et alpha b, c'est eux qui contiennent la phase qui m'intéresse. Alpha de t, c'est module de alpha et puissance i phi a. Tout ça, ça dépend du temps. Module d'alpha b puissance i phi b. Donc, je vais poser phi égale phi a moins phi b. Et je vais réécrire mes équations d'évolution que j'avais pour alpha et alpha b. Je vais les réécrire en termes de petit n et de petit phi. Et là, eh bien, je serai vraiment en position pour comparer avec la jonction Josephson supraconductrice. Alors pour ça, il me faut l'énergie totale. Alors l'énergie totale, comment est-ce que je la trouve ? Ça, vous allez voir, ça ne va pas être très compliqué. On peut la deviner. On peut aussi la calculer complètement à partir de l'équation Schrödinger, mais on peut la deviner. Donc je pars de la situation, je vous ai dit, où j'ai Na bar plus petit n particule ici, Nb bar moins petit n ici. Mon énergie totale, ça va donc être la somme de l'énergie du gaz dans la partie A, plus l'énergie du gaz dans la partie B, plus l'énergie tunnel. Encore une fois, je vous dis que c'est comme ça, mais vous pouvez revenir à la fonctionnelle d'énergie de Gross-Piasecki et vous allez pouvoir identifier tous ces termes vraiment proprement. C'est fait dans les notes en appendice, donc j'essaie ici de dégager les grandes lignes. L'énergie pour le gaz A, E de Na, eh bien je l'obtiens en faisant un développement de Taylor en fonction de petit n. Petit n, je vais supposer qu'il est petit par rapport au nombre total de particules. Donc grand EA de Na, je vais dire que c'est grand EA de Na bar, la valeur de consigne, plus la dérivée première fois petit n, dérivée première de l'énergie par rapport au nombre de particules fois petit n, plus 1,5 de la dérivée seconde fois petit n carré. La dérivée première de l'énergie par rapport au nombre de particules, c'est le potentiel chimique. Donc cette dérivée première, là, qui est prise pour Na égale Na bar, hein, ici, c'est le potentiel chimique que je vais appeler mu à bar. Et puis la dérivée seconde de l'énergie par rapport au nombre de particules, qui est donc la dérivée première du potentiel chimique par rapport au nombre de particules, eh bien, c'est la compressibilité du système, essentiellement. Donc je le note UA. Je fais la même chose pour B, simplement, au lieu d'avoir Na plus N, je vais avoir NB moins N, donc j'ai un signe moins qui vient se mettre. Donc j'ai ce signe moins ici qui vient devant le terme mu B bar, et puis là, je retrouve un signe plus, puisque c'est le carré, 1,5 de D2NB sur DN2. Donc mon énergie sur site, je peux l'écrire sous cette forme-là. Un premier terme qui va être la somme des valeurs à Na bar et Nb bar, c'est une constante. Là encore, les constantes dans l'énergie, ce n'est pas important. Le terme linéaire en N, eh bien, je peux l'écrire delta mu bar fois N, où delta mu bar, c'est mu A bar moins mu B bar, la différence des potentiels chimiques de consigne. Et puis j'ai un dernier terme ici qui me fait intervenir le carré du nombre de particules. Et ça, ça doit vous rappeler ce qu'on avait vu pour les condensateurs. Hein. Quand j'écrivais tout à l'heure un Q2 sur C, là, donc le nombre de charges au carré sur une capacité, eh bien là, c'est un peu la même chose. C'est une énergie de charge. C'est l'énergie que je dois payer pour faire passer des particules de A vers B. Tout comme je dois payer une énergie pour faire passer des charges d'une armature sur l'autre, d'un condensateur. Donc ce EC, je l'appelle EC parce que ça va jouer le rôle d'une énergie de charge, et son origine mathématique, c'est donc dμA sur dNA plus dμB sur dND, c'est la somme des deux compressibilités. L'énergie tunnel maintenant. Donc l'énergie tunnel, il y a plusieurs manières de la calculer. Là, j'ai choisi de le faire avec une approche seconde quantification. Donc dans cette approche, le terme tunnel, si je prends un terme, un hamiltonien quantique, le terme tunnel, c'est un terme qui me décrit une particule à droite et qui m'en crée une à gauche, ou le contraire, qui me détruit une particule à gauche, il m'en crée une à droite. Donc c'est un terme qui a la structure suivante, moins fois AB croix plus A croix B. Le signe moins, il est là pour garantir que l'état fondamental est bien la forme symétrique. Donc là, je suis dans une approche champ classique, donc les termes de création et d'annihilation de particules, je vais les remplacer par les amplitudes. Donc petit a, destruction d'une particule dans A, je vais les remplacer par racine de Na et puissance i phi A. A croix, je vais le remplacer par racine de Na et puissance moins i phi A. Et même chose pour B, puissance i phi B, puissance moins i phi B. Et donc, quand je vais remplacer donc, ces opérateurs création et destruction par des nombres classiques, eh bien, ce que je vais faire apparaître, comme j'ai des A qui multiplient des B, je vais faire apparaître un racine de Na et de B, ici. Et puis le terme de phase, eh bien, j'aurai pour le premier ici A qui multiplie B croix, donc j'aurai puissance I phi A qui va multiplier la puissance moins I phi B, donc c'est ce que j'ai mis ici, et puis ensuite j'ai le terme complexe conjugué A croix B, donc I puissance moins I phi A qui va multiplier puissance I phi B. Donc l'énergie tunnel, et donc la partie Hamiltonien tunnel mais prise dans cette approximation classique, qu'est-ce qu'elle fait intervenir? Eh bien, ce I puissance I phi A moins phi B plus son complexe conjugué, c'est deux fois cosinus phi A moins phi B. Donc je vais retrouver une énergie en cosinus phi A moins phi B. Ça doit nous rappeler des choses. Hein. Vous aviez ce moins cosinus phi ici qui apparaissait dans l'énergie de la jonction supra. Donc c'est un moins cosinus phi qui apparaît avec un préfacteur qui est racine de Na et de B. Alors, racine de Na et de B, je vous rappelle, Na c'est Na bar plus N, Nb bar moins N. Donc Na et Nb sont tous les deux d'ordre N sur 2. Donc racine du produit, c'est d'ordre n sur 2 aussi, donc ça je peux le mettre n sur 2 fois un terme gamma de n qui va être proche de 1, mais qui n'est pas strictement égal à 1, parce que, encore une fois, Na et Nb varient dans le temps. Donc c'est ça, en fait, la nouveauté par rapport aux jonctions supra. J'ai un moins EJ cosinus phi, encore une fois, c'est la même chose que ce que j'ai là-bas. Il suffit que je rappelle que EJ, c'est H bar IC sur 2E. Mais j'ai ce terme gamma de N d'ordre 1, mais pas strictement égal à 1, qui est nouveau par rapport aux jonctions supra. Je récapitule. On a donc une énergie à une constante à Dilly Frey qui a la forme suivante. Le terme qui vient des énergies sur site, delta mu bar N plus EC sur 2 N2, et puis ce terme qui vient de l'effet tunnel, moins EJ gamma de N cosinus phi. Je sais calculer EC à partir de la compressibilité du gaz, je vous rappelle que c'est la dérivée du potentiel chimique par rapport au nombre de particules. Quant au EJ, eh bien je sais également le calculer. En fait, je l'ai déjà calculé, si vous avez suivi tout ce que j'ai dit, puisque j'ai calculé tout à l'heure l'énergie de l'état φ0 et l'énergie de l'état φ1, ici. Eh bien, si vous regardez ce que c'est que l'état φ0 et ce que c'est que l'état φ1, c'est jamais rien d'autre que les configurations. Pour l'état φ0, c'est petit n égale 0, donc équilibre des nombres de particules et la même phase à gauche et à droite, puisque là, c'est les fonctions d'onde positives ici et positives là. Et φ1, c'est simplement, encore une fois, un équilibre, même pas nombre de particules à gauche et à droite, mais cette fois-ci, j'ai une différence de phase de π entre la gauche et la droite, puisque j'ai un changement de signe. Donc, pour déterminer EJ, je peux prendre n égale 0, donc j'annule ce terme-ci, j'annule ce terme-là, il me reste simplement cette chose-là avec gamma de n égale 1, puisque je suis dans le cas n égale 0, et dans un cas, je vais avoir moins EJ pour ici, et dans l'autre cas, je vais avoir plus EJ pour là, puisque je prendrai cosinus phi égale moins 1 ou plus 1. Donc EJ, c'est simplement 1 demi de 1 moins E0. Donc voilà, j'ai complètement caractérisé mon problème pour un condensat décrit par Gross-Pitayevski. Bien, j'en arrive à la toute dernière partie de ce cours, ça ne va pas être très long. C'est les équations du mouvement, maintenant, pour bien vérifier que je retrouve ce qu'on a vu pour Josephson. Et puis les oscillations plasma, qui ont été la première vérification expérimentale de cette physique Josephson avec des gaz d'atomes froids. Donc, on a l'énergie qu'on a trouvée, je répète, de manière semi-quantitative, mais qui peut être établie de manière vraiment rigoureuse à partir de la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevski, avec ses deux composantes, énergie sur site et puis énergie tunnel. Et donc, ayant l'énergie, eh bien, je peux obtenir les équations de mouvement avec les équations de Lagrange. Alors là encore, il y a des choses qui sont faites dans les notes que je ne veux pas redupliquer, mais les équations de Lagrange, quand je travaille en variable petit n, petit phi, sont très simples. C'est h bar n point égale la dérivée de E par rapport à phi, et h bar phi point, c'est moins la dérivée de E par rapport à n. Voilà, c'est une façon simple d'écrire finalement c'est l'équation de Schrödinger non linéaire quand je travaille avec ces variables-là. Allons-y. H bar n point, donc je dois dériver cette énergie-là par rapport à phi. C'est simple, hein, parce que phi n'intervient que dans cette fonction-là, donc c'est moins cosinus phi, et j'obtiens donc h bar n point égale EJ gamma de n sinus phi. Ça, c'est vraiment équivalent à la relation de Josephson. H bar n point, c'est quoi? N point, c'est comment est-ce qu'évolue le nombre de particules à gauche et évolue le nombre de particules à droite. N point, c'est rien d'autre que le courant qui circule de la gauche vers la droite ou de la gauche à la droite vers la gauche. Hein, puisque petit n me repère le nombre de particules dans chacun des sous-puits. Donc, h bar n point égale sinus phi, c'est vraiment la première relation de Josephson. La nouveauté, c'est que j'ai ce terme gamma de n qui est là. Ce terme gamma de n qui prend en compte le fait que je ne travaille pas à densité constante, mais à nombre de particules constants. Donc, la probabilité de passage de gauche à droite peut dépendre de combien j'ai de particules à gauche et combien j'ai de particules à droite. Deuxième relation, h bar phi point égale moins dE sur dN, qu'est-ce qui dépend de n là-dedans? J'ai ce terme qui est linéaire en n, donc je vais trouver un delta mu bar. J'ai ce terme qui est quadratique en n, donc je vais trouver plus nec. Et puis j'ai le fait que gamma dépend de n ici, donc je vais rajouter ici gamma prime de n, EJ cosinus phi. Le premier terme, lui, c'est exactement l'équivalent du voltage dans la jonction supraconductrice. Je peux revenir au tableau pour vous le montrer, ça va prendre une minute. Je vais m'intéresser à la différence de potentiel chimique instantané. Delta mu, ce que j'appelle delta mu sans la barre, c'est la différence instantanée. C'est donc mu A moins mu B. Que vaut mu A? Donc c'est mu A de NA. c'est mu A de NA, c'est mu A de NA bar plus petit n des mu A sur DNA. Mu B de NB, c'est mu B de NB bar moins petit n de D mu B sur DNB. Quand je fais la différence des deux, donc pour obtenir delta mu, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la différence de mu A de NA bar moins mu B de NB bar, mais ça c'est ce que j'avais appelé mu A bar et mu B bar, donc c'est donc le delta mu bar, plus petit n fois la somme, cette fois-ci, de D mu A sur DNA plus D mu B sur DNB. Et ça c'est précisément ce que j'avais appelé EC, l'énergie de charge. Donc, le delta mu bar plus NEC qui apparaît ici, c'est rien d'autre que le delta mu instantané de la jonction. Donc ce qui jouait le rôle de ma deuxième relation de Josephson, que oui, je n'aurais pas dû l'effacer, mais bon, vous vous en souvenez, c'est qui était donc H bar phi point égal au voltage, fois la charge d'une paire de coupeurs, et bien là, on voit que ce qui remplace la différence de potentiel électrique, et bien c'est la différence de potentiel chimique, delta mu. Et puis, donc, j'ai ce terme supplémentaire qui est la dérivée de gamma par rapport à n, que je n'avais pas, évidemment, encore une fois, parce que je travaillais à densité constante avec une jonction supra, et là, je travaille à nombre de particules constant. Bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des oscillations plasma d'une jonction Wolfson, qui étaient simplement les petites oscillations de mon pendule ici, au voisinage de sa position d'équilibre. Eh bien, ces oscillations plasma, on peut les voir aussi pour une jonction atomique. Donc on va prendre une jonction très proche de son état fondamental, donc je vais prendre comme valeur de consigne NA bar égale NB bar égale N sur 2, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le delta mu bar vaut 0, puisque à ce moment-là, les potentiels mu A bar et mu B bar sont égaux, potentiel de consigne. Je suppose de plus que je me limite donc à des petites oscillations, donc petit n, la déviation du nombre de particules par rapport à l'équilibre N sur 2 est petite devant 1. Je vais aussi supposer que la phase reste proche de 0, donc petit phi petit devant 1. Donc, dans les relations de Josephson pour ma fonction atomique, ma jonction atomique, je vais pouvoir faire des simplifications. La première ici, je vais me limiter à des termes d'ordre 1. Donc, h bar n point sinus phi, je vais le remplacer par phi, c'est déjà d'ordre 1. Donc, je vais pouvoir prendre gamma de n à l'ordre le plus bas, donc gamma de n égale 1. Donc la première relation va être simplement h bar n point égale ej fois phi. Dans la deuxième relation, là, le terme delta mu bar vaut 0, mais comme terme d'ordre 1, je vais avoir nec et puis gamma prime. Alors que vaut gamma prime ? Donc je reviens à gamma de n. Je vous ai dit tout à l'heure, gamma de n, c'est la moyenne géométrique de na et de nb divisée par n sur 2. Donc quand je remplace na et nb par n sur 2 plus n et n sur 2 moins n, gamma de n vaut 1 moins 4 fois n2 sur grand n2, petit n est petit devant grand n, donc je fais un développement limité, 1 moins 2n2 sur grand n2. Donc gamma prime, la dérivée de gamma, c'est moins 4n sur n2. Donc gamma prime est linéaire en n. Donc il faut que je le garde ici, je garde le nec aussi, et je récupère donc une équation du type h bar phi point égale moins ec plus 4j sur n2 petit n. Donc ça, c'est encore une fois un problème d'oscillateur harmonique, c'est normal, j'ai tout linéarisé, donc c'est normal que je me ramène à des équations linéaires. C'est un mouvement d'oscillateur harmonique avec une pulsation h bar oméga p qui est donc ej fois ec plus 4j sur n2, le produit des coefficients qui sont là et là. Voilà. Que penser de ça ? Est-ce que je retrouve mes petits ? Est-ce que je retrouve ma jonction Josephson ? Eh bien, la réponse est ça dépend. Supposons que je sois capable de faire varier ec, par exemple. Donc ici, j'ai ec qui varie. Vous voyez que EC intervient en étant additionné à 4J sur N2, donc je vais mettre 4J sur N2 sur mon axe, et je vais distinguer deux régimes. Le premier régime, qui est le régime qui va le plus nous intéresser, c'est le régime où EC est grand devant 4J sur N2. À ce moment-là, je peux négliger ça, si je suis ici, et je trouve H bar oméga P égale racine de EJEC, c'est le régime Josephson. C'est le régime qu'on a trouvé tout à l'heure. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, que la fréquence plasma pouvait se mettre comme moyenne géométrique de l'énergie de charge et de l'énergie EJ Josephson associée à la jonction. Eh bien, si je suis dans le cas où EC est grand devant 4J sur N2, je peux effectivement retrouver la jonction Jeffson. Et vous pourrez vérifier, en remontant le calcul de la diapositive précédente, que ça correspond au cas où gamma prime de N joue un rôle négligeable, où je peux prendre gamma de N égal 1. C'est-à-dire que je peux négliger, en gros, le fait que, comme les nombres de particules ont varié, la probabilité d'effet tunnel a varié aussi. Donc c'est vraiment le régime Josephson, parce que, encore une fois, dans Josephson, on suppose que les densités sont constantes, et donc que la probabilité tunnel reste constante, l'effet tunnel reste constante au cours du temps. Donc ce régime-là, c'est le régime Josephson, c'est lui qui va le plus nous intéresser. Mais néanmoins, il faut quand même ne pas passer sous silence l'autre régime, qui est le cas où l'énergie de charge est vraiment très faible, donc plus faible que EC. À ce moment-là, ce que je trouve, c'est une fréquence plasma qui ne dépend pas de EC. C'est simplement, vous voyez, H bar oméga carré, ce sera EJ carré sur N2, donc H bar oméga P sera EJ sur N. C'est un régime qu'on peut qualifier régime de Rabi, parce que finalement, on s'est ramené à l'oscillation d'une particule unique sous l'effet d'un couplage EJ. Eh bien, on sait que la particule va osciller entre les deux états possibles à une fréquence qui est simplement EJ sur H bar. Donc ici, EJ est proportionnel à N, donc c'est EJ sur N qui intervient. Mais c'est un régime qui est finalement le régime d'un système à deux niveaux classique en physique quantique. Enfin, classique en physique quantique. Habituel en physique quantique. Ça fait un peu bizarre, sinon, comme formulation. Bien, voilà, donc on a identifié nos deux régimes. Comme je le disais, on va se concentrer plutôt sur le régime qui est ici, le régime Josephson. Et donc, je termine par la toute première observation de ces oscillations plasma. C'est une expérience qui a été faite dans le groupe de Heidelberg, le groupe de Markus Oberthaler, en 2005. C'était un condensat de rubidium dans un double puits. Donc, il y avait environ 1000 atomes dans ce condensat. La séparation entre les puits que vous voyez ici est de l'ordre de 4 microns, entre le puits de gauche et le puits de droite. Les chercheurs de Heidelberg ont fait deux types de mesures. En prenant une photo directe du condensat in situ, ils ont pu mesurer le nombre d'atomes à gauche et le nombre d'atomes à droite, Na et Nb. Mais ils ont également pu mesurer la phase. Alors, il fallait faire une mesure ou l'autre, on pouvait faire les deux en même temps, mais ils ont également pu mesurer la phase, et pour mesurer la phase, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé le double puits, donc les deux nuages se sont étalés, ils se sont recouverts, et de la figure d'interférence entre les deux nuages, ils ont pu remonter à la phase relative phi A moins phi B. Donc, leurs résultats sont montrés ici. D'abord, vous avez des photos prises in situ, ici, où vous voyez très bien l'oscillation, là, un surplus d'atomes à gauche, ici un surplus d'atomes à droite, et puis de nouveau à gauche. Là, vous avez la différence de population qui oscille en fonction du temps. Et là, vous avez la phase relative qui oscille en fonction du temps. On peut vérifier que la phase est en quadrature par rapport au nombre de particules. C'est normal. Hein. N point est proportionnel à phi, phi point est proportionnel à moins n. Donc, les deux fonctions sont en quadrature l'une par rapport à l'autre. Et ils ont pu vérifier que leur expérience était bien faite dans le régime Josephson, c'est-à-dire qu'ils avaient bien une énergie de charge supérieure à EJ sur N2. Voilà, donc ça a été, je dirais, la première expérience qui est réalisée vraiment l'expérience du double puits tel que Josephson, finalement, l'avait proposé pour les jonctions supra. Voilà, eh bien, j'en arrive à la fin. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Eh bien, on a vu la jonction Josephson idéale, décrite par les deux relations de Josephson, I égale IC sinus phi, H bar phi point égale 2EV. On a vu ce modèle avec une résistance et une capacité en parallèle avec la jonction idéale pour décrire les effets capacitifs et aussi la dissipation, qui joue un rôle important dans la suite. Et puis on a vu enfin le passage à une jonction atomique avec ce double puits, ce terme gamma de n qui peut ou non jouer un rôle. Quand il ne joue pas de rôle, quand je peux prendre gamma de n égale 1, gamma prime égale 0, eh bien on a vu qu'on avait une correspondance parfaite avec les jonctions supraconductrices. Voilà, je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire de Christophe Salomon dans un quart d'heure, et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.